Bonsoir et bienvenue dans le temps du débat jusqu'à 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, la télévision est-elle redevenue un refuge ? Était-ce à tort ? Ces dernières années, la télévision était bien souvent présentée comme un objet dépassé, boudé par les jeunes, débordé par les plateformes et parfois en manque d'idées. 2020 a tout chamboulé. Durant le premier confinement, la durée d'écoute moyenne des Français a bondi. 4h40 de télé par jour contre 3h30 un an plus tôt. Les jeunes, en particulier, ont doublé leur temps d'écran. Évidemment, ces chiffres ont depuis baissé, mais les audiences restent élevées. Et sur l'ensemble de l'année 2020, ce sont 21 minutes en moyenne quotidienne qui ont été gagnées. Quels enseignements tirer de cette année atypique ? Que faire de ces succès ? Peut-on considérer qu'ils impliquent aussi des responsabilités pour le service public en particulier ? À l'heure des fausses informations et alors que les lieux de culture restent fermés, nous en parlons ce soir avec Florent Dumont, directeur des antennes de France Télévisions. Bonsoir.
Bonsoir.
Alain Le Diverdeur, consultant médias, vous avez été notamment conseiller à la présidence de France Télévisions, directeur des nouveaux programmes de Canal+ dans les années 90, puis directeur des programmes d'Arte de 2012 à 2017. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes aussi l'auteur de La nouvelle économie de l'audiovisuel, publiée en 2019 à La Découverte. Et bonsoir Marie-France Chambaouillon. Sémiologue de l'audiovisuel, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à la Sorbonne Nouvelle et directrice du laboratoire Communication, Information, Médias.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible.
Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une ce soir, pas d'épreuve finale du bac et du brevet. Le contrôle continu validera les examens en raison des incertitudes liées à l'épidémie. Des millions de familles et d'élèves s'interrogent. Question-réponse ce soir avec notre invité, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sera avec nous.
Bonjour les enfants de CE1, bonjour les parents. Je suis ravie vraiment de vous revoir ce matin. C'est l'heure de la leçon de français. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les accords dans le groupe nominal.
Ah oui, non, mais moi, c'est vrai, je ne regarde pas beaucoup de fiction, mais de temps en temps, je regarde, et quand je vois un couple, vous savez, on voit les deux visages qui s'approchent l'un de l'autre, on sent qu'ils vont s'embrasser. Là, je me lève, je dis non, arrêtez.
C'est la quoi ?
La reine.
La reine ? Non.
Sie haben meine Ehren, Damen, erst und die Unschuld eines jungen deutschen Mädchens missbraucht.
Madame.
Raus, ihr Zwerge!
Raus, schnell! Quelle foi, quelle douceur!
Et voici donc quelques échos de cette télévision de 2020. Les mots d'Emmanuel Macron que nous avons entendus au début sont ceux du 13 avril. 37 millions de téléspectateurs, c'est un record historique. Alain Le Diverdeur, peut-on dire qu'à l'occasion de cette crise, on s'est tout simplement rappelé à quoi servait la télévision ?
Alors, effectivement, il y a eu plusieurs événements considérables, notamment les scores d'audience. C'est la première fois depuis très 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 longtemps que c'est pas un match de foot qui est en tête des audiences dans l'année. Et donc, c'était effectivement, il y a eu trois interventions et peut-être quatre du président de la République qui ont eu des scores supérieurs à celui de la finale de la Coupe du Monde de foot en 2018. Bon, ça, c'est un événement. Et effectivement, seule la télévision linéaire, classique, permet de faire ça, permet de rassembler instantanément un public aussi vaste. Notamment, le même Emmanuel Macron est intervenu sur les réseaux sociaux sur Brut. Alors, ça a été considéré comme un très grand succès, mais ça faisait à peu près 5 fois moins d'audience. 5 fois, hein, je crois que c'est 37 millions de téléspectateurs en antenne de télé classique et 7 millions de spectateurs, et encore c'est le chiffre donné par le média lui-même, donc on peut penser qu'il n'est pas sûrement pas sous-évalué quoi. Donc effectivement, cette année a rappelé que pour rassembler un pays, pour rassembler toutes les couches de la population, ben il y a que la télévision, ni la La radio a beaucoup de mérite, mais elle n'est pas aussi puissante. Et les réseaux sociaux sont beaucoup plus faibles, en fait. Et non seulement ils sont faibles à l'instantané, mais ils sont faibles au total. Mmh. Et c'est ce que on oublie souvent depuis quelques années, avec une espèce de, si j'ose dire, de gonflette de l'importance des réseaux sociaux. Quand on regarde les chiffres, et surtout, il faut douter de ces chiffres parce qu'ils sont souvent faux. Hein, les réseaux sociaux trichent. Ils se sont fait attraper plusieurs fois avec des procès sur cette question. Bref, ils sont beaucoup plus faibles. Donc la télévision, effectivement, média le plus puissant, et 2020 l'a montré à nouveau.
Et l'a rappelé peut-être. Alors évidemment, c'est vrai qu'on a passé beaucoup plus de temps chez soi, donc c'était une partie sans doute importante de l'explication de ces audiences exceptionnelles, mais on pouvait aussi faire autre chose chez soi. Vous, Marie-France Chambaouillon, vous soulignez qu'il y a aussi, avec la télévision, et ça n'est pas très loin de ce que vient de nous dire Alain Le Diberder, une expérience de partage qui a pu jouer pendant cette période.
Oui, tout à fait, parce que ce qu'il faut, si on part sur la distinction entre les réseaux sociaux et les plateformes et la télévision, d'un côté on a un média, la télévision qui est un média de l'offre, et de l'autre côté on a une logique de la demande davantage. Et en tant que média de l'offre, la télévision a cette caractéristique en tant que télévision linéaire, c'est de proposer une programmation, donc de proposer des rythmes sociaux justement à des citoyens qui n'en avaient plus lors du premier confinement. Donc on s'est retrouver finalement, on a pu renouer avec un collectif grâce à la télévision, on a pu redevenir un public parce que non, on a tous plus ou moins regardé ensemble des mêmes contenus, et c'est du fait que la distanciation sociale ne nous permettait pas de nous retrouver collectivement, spatialement, grâce à la télévision, grâce à la programmation, grâce à sa logique de rendez-vous, ben précisément on a pu se retrouver temporellement, en partageant une expérience commune.
Oui, voilà, on n'était pas ensemble au même endroit, mais on était en même temps en train de regarder la même chose.
Oui, une forme de synchronisation, effectivement, des Français.
Alors, Florent Dumont, vous êtes directeur des antennes de France Télévisions. Vous étiez auparavant directeur de la stratégie des publics. Vous connaissez donc très bien toutes ces questions. Vous êtes directeur des antennes depuis septembre. Avez-vous été surpris par ce qui s'est passé durant toute cette période, en termes d'audience précisément ?
Écoutez, on a senti avec le début du premier confinement que de fait les publics allaient être beaucoup plus disponibles et chez eux. Et la question qu'il s'est posée d'entrée de jeu, c'était celle de notre utilité. C'était, vous le disiez, on peut être disponible, mais pour autant on pouvait trouver d'autres choses à faire. Et donc la question, c'était comment nous sommes utiles pour aider ces téléspectateurs et ce public à traverser cette période très particulière. Donc on s'est posé des questions assez fondamentales sur les besoins et les attentes de ces publics. Besoin d'informations. Avec la fin de l'école pendant le premier confinement, le retour de programmes purement éducatifs sur nos écrans, on entendait un extrait tout à l'heure. Besoin de divertissement et d'évasion aussi, finalement, le mot d'évasion, de se retrouver en partage avec d'autres personnes, soit dans le même foyer, puisqu'on avait des familles qui se réunissaient autour d'un même écran pour la première fois depuis longtemps, ou, comme le disait madame juste précédemment, avec des personnes qui étaient dans des foyers différents.
Mais alors, ce qui est notable justement, Alain Le Diberder, parmi tous ces éléments qu'on a sur cette année 2020, les audiences, et notamment pendant le premier confinement, c'est que les chaînes d'infos ont énormément progressé, mais les JT traditionnels aussi. Et d'ailleurs, ils se portent toujours bien. Et ça, est-ce que c'est une surprise finalement de voir que la télévision demeure une source considérée comme fiable en termes d'information, et que les 13h-20h restent des rendez-vous finalement?
Alors, une surprise, non, parce que, si vous voulez, l'érosion depuis 2012 de l'audience de la télévision a assez peu touché les journaux, globalement. Simplement, il y a plus de chaînes et ces audiences se divisent, s'effritent, quoi, s'émiettent. Mais je pense que dans la bonne nouvelle pour la télévision du premier semestre, il faut distinguer deux choses. La croissance de l'audience générale, c'est spectaculaire, mais en même temps, c'est un peu normal. Quand les gens sont confinés, ils regardent plus la télévision parce qu'ils sont plus chez eux. Quand ils seront plus confinés, et dès qu'ils n'étaient pas confinés cet été, les choses redeviennent normales. En revanche, je reviens sur les scores du président de la République. Là, ça n'a rien à voir avec le confinement. C'était d'abord la première fois, c'était justement pour annoncer le confinement.
Absolument.
C'est pas à cause du fait que les gens étaient confinés que ce score était là. Et c'est surtout cette puissance qu'on n'avait plus vue depuis très longtemps du rassemblement pour un message d'urgence autour du média. Mais pour les chaînes d'infos, en fait, les choses sont pas si bien passé en fait hein. quand on regarde il y a effectivement quand il y a une nouvelle disons d'importance moyenne, c'est elle qui en bénéficie. Quand c'est une nouvelle de très grande importance comme un discours du président de la République, et c'est les chaînes classiques qui font l'audience, c'est TF1, c'est France 2, France 3,
Et qu'est-ce que cela veut dire, ça, finalement, qu'il y ait ce réflexe d'aller sur les chaînes classiques, comme vous dites, quand il y a quelque chose de très important? Ça veut dire qu'on a encore quand même, un ancrage, enfin, un rapport très particulier quand même à la télévision.
Oui, tout à fait. En fait, quand on dit la télévision, il faut bien voir que ça recouvre quatre choses très différentes. Il y a les grandes télévisions publiques. Il y a les grandes télévisions commerciales linéaires, TF1, M6 en France. Il y a les grandes entreprises de télévision à péage, Canal Plus et Sky. Et puis, il y a tout le reste, qui sont les chaînes thématiques ou locales. Les premières chaînes, c'est-à-dire les chaînes publiques générales, ne sont pas que des médias électroniques, ce sont des institutions. Mmh. Alors, c'est évident en Grande-Bretagne avec la BBC en Allemagne, mais c'est vrai aussi en France. C'est-à-dire que et TF1, qui a été pendant 40 ans, enfin 35 ans public, bénéficie aussi de cet effet. Donc les gens vont vers une institution, ils vont pas vers un média, ils vont pas vers un service électronique.
Oui, et Marie-France Chambaouillon, justement, de ce point de vue, on l'a dit, et c'est aussi dans une certaine mesure vrai de la radio, qu'il y a eu aussi, avec cette période, quelque part, une façon de réaffirmer les missions du service public en particulier.
Oui, oui, tout à fait. Les trois missions fondamentales du service public, hein, le fameux triptyque, informer, distraire et cultiver. Et on l'a vu effectivement très rapidement, France Télévisions a réussi justement à développer, à mettre en place des programmes de scolaires, à renouer donc avec la télévision scolaire. Elle a réussi à distraire également en programmant des films très intergénérationnels en début d'après-midi, etc., etc. Mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est je voudrais un petit peu réagir à ce qui vient d'être dit. C'est qu'effectivement, la télévision, elle a été très structurante, mais elle a également servi de balise. Au moment où il y a un émiettement des sources d'information, le retour aux chaînes, on va dire, traditionnelles, qui ont une histoire, parce que il y a une forte histoire, on va dire, des chaînes de télévision en France, a permis, je pense, au moment de la crise, au moment du premier confinement, de réassurer effectivement les Français, d'avoir effectivement, peut-être pas une source unique d'information, mais en tout cas une voix un petit peu consensuelle qui servait de balise et donc de repère, alors qu'on sait très bien que les réseaux sociaux, c'est le règne des fake news, des théories complotistes qui sont loin d'être rassurants, au contraire, qui sont plutôt anxiogènes.
Même s'il y a aussi parfois des informations sur les réseaux sociaux et parfois des informations problématiques ou des non-informations à la télévision. Florent Dumont, on parle de ses missions de service public, donc évidemment, ça vous concerne, directeur des antennes de France Télévisions. Informer, éduquer, on parlait de ces programmes éducatifs, alors précisément, ils ont eu le mérite aussi de sauver France 4, mais pour quelque temps seulement, visiblement, on évoque une fermeture pour août 2021 de France 4. Qu'est-ce qu'il en est ?
Écoutez, en tout cas, la chaîne, effectivement, devait fermer l'été dernier et devant l'importance qu'elle a eue dans le dispositif de France Télévisions pour accompagner les Français sur cette mission éducative, il a été décidé de la prolonger. L'idée, de toute manière, sur le public des enfants, c'est qu'on a un développement aussi sur nos plateformes numériques, parce qu'il faut savoir que France Télévisions, par exemple, n'est pas qu'un groupe de télévision linéaire, on est aussi un groupe numérique avec des plateformes. Et on développe une plateforme comme Oku qui a vocation à aider les enfants à s'amuser, mais aussi une plateforme comme Lumni qui est une plateforme éducative avec des contenus disponibles. Et tout le sujet, finalement, c'est vraiment l'équilibre entre ce que l'on appelle l'offre linéaire à une heure donnée sur une chaîne donnée et l'offre numérique à la demande lorsque les enfants ou les élèves, en l'occurrence, peuvent aller chercher des contenus. Et donc, tout ce que l'on construit, c'est cette transformation de France 4 en une offre numérique, et on verra dans quel calendrier.
Oui, et en même temps, ce qu'on a vu aussi à l'occasion de cette crise, c'est que malgré tout, les outils numériques, ils ne sont peut-être pas forcément partagé, enfin tout le monde n'est pas forcément équipé, oui. Et c'était aussi l'intérêt d'avoir un programme à la télévision ou à la radio.
Absolument, c'est vrai que la crise a été révélatrice des fractures de la société, et finalement la télévision rassemble tous les types de populations, de tous âges, toutes origines ou tous niveaux sociaux.
Mais donc par exemple les programmes éducatifs en dehors, pour vous c'est sur le numérique, vous n'envisagez pas de faire ça sur la télévision linéaire, la télévision objet?
En fait, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est la dimension ludo-éducative, ou les programmes éducatifs, mais peut-être moins estampillés éducatifs qu'ils n'ont été pendant le confinement. Je m'explique. Pendant le premier confinement, il n'y avait plus école, et donc il y avait ce besoin de cours, véritablement, avec des instituteurs qui enseignaient le français, les mathématiques, l'histoire par niveau. Et ce que l'on voit aujourd'hui, et on croise les doigts pour que ce soit un retour à la normale durable avec l'école qui a rouvert, on voit que ce besoin de programmes purement éducatifs, il est peut-être moins là. En revanche, de programmes intelligents et ludo éducatifs qui apprennent aux enfants tout en s'amusant, ça c'est un vrai enjeu qui perdurera sur le linéaire et quel que soit l'avenir de France 4 dans les mois à venir.
Mmh. Alain Le Diverdère, vous disiez cet été dans Libération, le problème de France Télévisions c'est que la mission n'est pas claire. L'est-elle davantage aujourd'hui après cette période, et est-ce qu'on va savoir s'en souvenir justement au niveau des tutelles?
Alors, je peux évidemment pas parler au nom de la tutelle,
non, bien
mais je peux parler plus librement que mon camarade directeur d'antenne. Le confinement a eu plusieurs effets positifs, malgré tout, dans cette année triste pour France Télévisions. Le premier, c'est qu'elle a coupé, et vous aussi sur France Culture, à cette stupidité qui était le fait de regrouper l'ensemble des services publics avec une holding, un machin bureaucratique. Donc ça, c'est passé à la trappe, et c'est bien fait, merci le virus. Et deuxièmement, France 4, faut quand même rappeler que cette histoire est une histoire de corps de cul. Qui a demandé la suppression de France 4? Est-ce que ce sont des professionnels? Est-ce que c'est parce que les programmes étaient mauvais? À un moment, on a dit c'est pour économiser de l'argent, mais je pense que France Télévisions a très bien montré que c'était une fausse économie. Bref, il y avait des idées un peu stupides qui étaient dont la seule logique était une fidélité politique à un programme électoral de 2017, mais qui ne reposait sur aucune analyse, qui ont disparu. Même si, par sympathie avec l'ancien ministre, ouais, L'actuel ministre ne les enterre pas complètement.
Mais donc la mission est-elle plus claire alors aujourd'hui, d'après vous?
Alors non, la mission n'est pas pour autant plus claire, mais c'est un problème qui n'est pas propre à la France. C'est-à-dire que de nombreux pays européens ne savent plus quoi faire avec leur secteur public. Donc, ces secteurs publics ont une bonne audience, ont très souvent une très bonne image, mais leur mission, depuis la fin du monopole, est assez difficile à définir. En Grande-Bretagne, il y a des débats permanent là-dessus, avec des publications d'ouvrages, des colloques et des césures à l'intérieur même du parti conservateur. Ne parlons pas les travaillistes sont un peu plus unis là-dessus. Mais la France est un pays un peu particulier où l'audiovisuel a disparu de la politique. Les politiques s'en fichent en fait. Donc il n'y a pas de débat. Si vous revenez 20 ans en arrière, vous avez dans les journaux, dans les partis politiques, des programmes, des débats, et notamment un débat sur la place du secteur public. Aujourd'hui, on n'entend pas à LREM, on n'entend pas à LR, on n'entend pas au PS, on n'entend pas à LFI, et encore moins chez les écolos, une analyse, un point de vue, etc. Donc, à la fois, ça protège, parce que finalement, quand les politique s'occupe trop de l'audiovisuel, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Oui. Mais en même temps, c'est inquiétant pour l'émission, justement, parce que à quoi ça sert un secteur public? On met la question sous le tapis, mais personne n'a de vraie réponse. Alors, vous allez me dire, on lutte contre les fake news, la culture, etc., etc., mais on sent bien que finalement, c'est pas très consistant tout ça.
On va parler de la culture justement. La télévision est-elle redevenue un refuge? Vous écoutez France Culture, il est 18h40.
able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
France Culture.
The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions.
Le temps du
débat. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised.
Chloé Cambrelin.
Jill Scott-Heron, dans ce temps du débat qui parle donc, télévision est-elle redevenue un refuge? Florent Dumont, directeur des antennes de France Télévisions. Si l'on parle précisément de culture, durant le premier confinement, on a eu Louis de Funès, beaucoup, des films grand public qui ont toujours, comme toujours, très bien fonctionné. Mais au-delà de ça, comment endossez-vous, et aujourd'hui encore, ce rôle peut-être particulier que vous avez, alors qu'il n'y a pas de cinéma, de théâtre, de musée? Comment cela vous amène à repenser la place de la culture sur vos antennes?
C'est une vraie question. C'est vrai qu'on a voulu soutenir la culture, les artistes, donner à voir aussi au public des spectacles auxquels ils n'avaient plus accès. Donc on a par exemple proposé davantage de spectacles vivants en première partie de soirée sur France 5. On a ouvert une nouvelle case le vendredi soir pendant la période de couvre-feu, et case qui va d'ailleurs perdurer au-delà sur le premier semestre 2021. On a lancé une émission éphémère le temps du couvre-feu puis confinement, qui s'appelait 6 à la maison et dont l'idée était de donner la parole aux artistes sur France 2 en deuxième partie de soirée du lundi au jeudi, voilà, tous les jours, où des artistes venaient parler de leur art, de leur relation au public, de ce que créait ce manque. Et voilà, donc on a réfléchi, on a développé des pastilles, par exemple un format comme La Petite Librairie, qui est diffusé chaque jour sur toutes nos antennes et dans laquelle François Bunel donne à voir un livre et donne des conseils de lecture. Voilà, on a, sur chacun des arts et des pans de la culture, on a réfléchi à comment l'exposer et la soutenir dans cette période complexe.
Marie-France Chambaouillon, vous parlez d'un renforcement des missions de service public. Est-ce que la culture à la télévision, c'est éduquer ou c'est divertir?
Ben, c'est les deux. Et c'est vrai que lorsqu'on se penche sur l'histoire de la télévision française et du service public, on voit que selon les époques, effectivement, soit la dimension éduquée, pédagogique a été mise en avant, jusque dans les années 60, à peu près les années 60, et après, effectivement, la notion de divertissement s'est venue se mêler à la notion de culture. Mais on parlait à l'instant du programme 6 à la maison. Le programme est un magazine culturel, mais il y a également une dimension, effectivement, de divertissement qui est apportée. Donc, c'est vrai que le couple culture-éducation est un couple qui a varié énormément dans l'histoire de la télévision, et et les polarités n'étaient pas les mêmes selon les époques.
Alain Le Diberder, vous, comment voyez-vous cette place de la culture à la télévision, ce qu'elle est, ce qu'elle devrait, pourrait être?
Alors, c'est un sujet où personne n'est jamais content. C'est-à-dire que les groupes de pression vont toujours trouver que France Télévisions n'en fait pas assez, ou est le théâtre vivant.
C'est quoi les groupes de pression?
Les artistes, les auteurs, parfois le ministère de la Culture lui-même, qui pourtant est la tutelle. Donc, j'ai jamais vu de période où on tresse des lauriers, des couronnes de laurier à la télévision publique en disant « Ah, c'est vraiment très bien ce qu'ils font pour la culture en France. Hein. » Ce n'est pas le cas, encore une fois, en Grande-Bretagne ni en Allemagne. Mais en subissant ces pressions, on met à l'antenne plus de spectacles vivants en particulier, les audiences sont catastrophiques, il ne faut pas dire le contraire. Même en période de confinement, il y a des choses qui passent, on va dire, mal à la télévision, pour des tas de questions, des fois ergonomiques, des fois de qualité de captation, etc. Pareil, les émissions sur les livres, c'est très très bien, mais on a encensé l'émission de Pivot, mais après sa disparition, il faut quand même rappeler que les émissions de Pivot, dans les 7 ou 10 dernières années de leur existence, avaient des audiences extrêmement faible. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire.
Oui, c'est toujours la question, en particulier sur le service public. C'est peut-être pas parce qu'il y a une grosse audience qu'il ne faut pas le faire, effectivement.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, les gens qui font ça, les camarades Dumont, ne vont prendre que des coups de bâton. Pour les uns, ils n'en feront jamais assez. Et pour les autres, ils ne tiennent pas la route par rapport aux télévisions commerciales, etc. Enfin, c'est la loi du genre, ça fait partie du métier. Mais il faut savoir que le rôle culturel de la télévision existe, mais il passe pas forcément par les émissions culturelles, il passe par les journaux, par exemple. Il passe par les documentaires, il passe par la qualité des fictions, etc., etc. Mais le débat est très souvent faussé dès lors qu'on le pose en termes d'exposition de la culture, enfin les spectacles vivants en particulier, ou bien les émissions sur les livres et ou le cinéma.
Florent Dumont, alors là-dessus, et puis plus largement justement, est-ce que cette période-là vous a amené à envisager les choses différemment pour la suite, c'est-à-dire encore une fois, quels enseignements vous en tirez? Je dis ça aussi parce que France Télévisions doit présenter, je crois, ses nouveautés de la rentrée le 5 janvier.
Oui.
Dans quelle mesure est-ce que tout cela a pesé dans les choix, dans ce que vous allez présenter justement début janvier?
Oui, en fait, on ajuste en permanence notre offre. Alors, on est service public, on a une politique de l'offre, ça a été dit. Et pour autant, nous, moi, il y a deux mots qui m'importent beaucoup, c'est l'universalité et l'utilité. L'universalité, c'est comment, en tant que service public, on fait attention à s'adresser à tous, à ne pas laisser des publics de côté, quel que soit, encore une fois, l'âge, les niveaux sociaux, les niveaux d'éducation. Et par exemple, sur le sujet du livre, on a une émission qui est la Grande Librairie sur France 5, en première partie de soirée chaque semaine pendant une heure et demie. Et là, on va plutôt s'adresser à un public déjà féru de littérature et acquis. Mais on a des formats plus larges sur une chaîne comme France 2 qui vont peut-être surprendre le public. Et lorsque on a interviewé Barack Obama devant 6 millions de personnes sur France 2 et qu'il a parlé de Toni Morrison, bah voilà, c'était quand même une forme aussi de culture très très forte via cette interview de Barack Obama. C'était juste pour répondre à ce qui était dit précédemment. Sur les nouveautés, alors
vous n'allez pas nous les dévoiler ici,
annoncer
on aujourd'hui,
sait
bien. on sait.
Mais en tout cas, on a lancé aussi une consultation citoyenne. On l'avait fait il y a 2 ans. On a relancé une consultation citoyenne avec Radio France, d'ailleurs, puisque même si on n'est pas une société commune, on travaille beaucoup ensemble, déjà. Et on a lancé une consultation citoyenne pour bien comprendre quelles étaient les attentes des Français à l'égard de leur audiovisuel public, et ça nous a permis d'affiner notre offre. Voilà, ils nous demandent davantage de proximité, ils nous demandent de la diversité de contenu, ils nous demandent d'être surpris, et donc on travaille avec ces besoins-là. C'est eux qui nous avaient demandé aussi il y a 2 ans et demi de nous mobiliser sur l'environnement, et puis aujourd'hui ça paraît une telle évidence de dire ça. Il y a 2 ans et demi, ça émergeait, mais c'était peut-être moins présent et aussi évident que ça ne l'est devenu aujourd'hui. C'est comme ça qu'on avait lancé une émission comme Sur le front avec Hugo Clément, par exemple, qui sera sur France 5 dorénavant. Voilà, donc l'idée, c'est de prendre le pouls de la population à laquelle on s'adresse, toujours vérifier que l'on s'adresse à tous, et puis challenger cette utilité pour être sûr que, certes, les publics sont disponibles, mais qu'on continue vraiment à répondre à leurs besoins.
Marie-France Chambaouillon, ça, finalement, ça, s'adresser au plus grand nombre, ça, c'est quelque chose qui a toujours été valable, enfin, ça a été toujours un objectif. Vous, est-ce que vous voyez des enseignements à tirer, justement, de cette période pour ce qui pourrait être fait par la suite?
Précisément sur la culture, je pense que lors du premier confinement, ce qui était intéressant de voir, c'est que ce qui était proposé comme contenu culturel était précisément rassemblant, fédérateur, rassurant, alors que précisément on a une image de la culture élitiste très très segmentante, très très distinctive, hein. Et là ça a fonctionné à travers effectivement des choix de d'œuvres cinématographiques, mais qui relevaient aussi du cinéma français. Donc s'il y avait une dimension culturelle qui était évoquée, qui était mise en avant. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant, c'est qu'effectivement je pense que ce qu'on a une des leçons du confinement, c'est que la culture à la télévision, ça marche, mais Et ça marche parce que elle est aussi ce qui rassure les publics. C'est ce qui les fait appartenir à un collectif, à un nous. Ça crée une histoire commune, ça crée des références communes. Et c'est ça qui a fonctionné, je pense, les propositions culturelles pendant le confinement.
Alors, l'actualité du moment, c'est aussi cette directive SMA, Service Média Audiovisuel. Alain Le Diberdard, une ordonnance a été présentée lundi en Conseil des ministres par Roselyne Bachelot. Donc, le projet de décret d'application prévoit que 20 à 25% du chiffre d'affaires des plateformes réalisées en France soit consacré à la production cinématographique et audiovisuelle. C'est vrai qu'on a finalement peu parlé des plateformes jusque-là, mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça pourrait changer, ça, pour la télévision française?
Alors, il y a une bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est surtout pour les producteurs, c'est effectivement des financements supplémentaires qui viennent compenser sans doute au-delà la baisse du financement des chaînes traditionnelles, hein, puisque les chaînes commerciales ont moins de recettes. France Télévisions est avec un budget qui est stable, et Canal Plus a moins d'argent. Donc ça, c'est bien. Ce qui est peut-être moins bien pour les chaînes de télévision traditionnelles, c'est d'une part que ces plateformes qui ont des poches très profondes vont être des concurrents redoutables pour s'attirer les talents, qui risquent de préférer travailler pour Netflix que travailler pour France Télévisions, surtout compte tenu du chèque à la fin du mois. Et aussi, il y a un petit problème où les télévisions sont moins contentes, c'est la chronologie des médias, puisque les chaînes de télévision en France sont obligées d'investir une partie de leur chiffre d'affaires dans les nouveaux films. En contrepartie, ces films arrivent sur les chaînes un peu plus tôt que pour les autres films. En gros, ils peuvent mettre des films à 2 ans au lieu de les avoir à 3 ans. Mais la chronologie des médias va être bouleversée. Et dans ce cas-là, l'attractivité, enfin l'intérêt des chaînes de télévision d'investir dans le cinéma va être encore diminué. Donc ça, c'est un deuxième aspect négatif, ce qui fait que il faut voir ce qui va se passer. Les choses vont pas être instantanées, hein, c'est plutôt 2022-2023. Globalement, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de voir que les plateformes sont obligées d'investir en France.
Oui, pour l'instant, le ministère dit que la publication, après examen par le Conseil d'État, de ce décret peut être envisagée pour le printemps 2021, donc c'est pas immédiatement de toute façon. En effet, Florent Dumont, vous, à France Télévisions, comment voyez-vous arriver cela? Et c'est l'occasion aussi peut-être de préciser que dans un contexte d'économie, malgré tout, c'est toujours ça qui vous est demandé, vous avez aussi eu un soutien de l'État via le plan de relance, et que le budget création particulièrement est maintenu, voire un peu augmenté par Delphine Ernotte.
Tout à fait, il y a un vrai enjeu de soutien à la création, donc création étant entendue comme la fiction, le documentaire, le spectacle vivant. Ce sont aujourd'hui des éléments aussi très différenciants par rapport à, que ce soit aux chaînes privées ou aux plateformes dont on parle. Moi, dans cette intensification de la concurrence, ce que je vois de positif, c'est que ça nous oblige toujours à penser cette différence, en fait, à dire, ben voilà, aujourd'hui, il y a une offre qui est multiple, qui est variée. Que doit-on apporter? Comment se remettre toujours en cause pour rester attractif auprès des publics et utile, comme je le disais? Ensuite, c'est sûr que les questions budgétaires et les questions des talents, comme disait Alain Le Diberdard juste précédemment, c'est le nerf de la guerre, puisqu'on voit qu'aujourd'hui il y a énormément de plateformes, de chaînes d'offres, et donc
est-ce que vous avez les moyens justement d'attirer ces talents?
En tout cas, on a des idées et on essaie d'être inventif, de proposer des choses différentes. On a pas mal fait infléchir notre politique de fiction là ces derniers mois. Vous avez peut-être vu une série comme Laetitia, une série comme La Garçonne. C'est des choses assez différentes qui ont vraiment pour vocation de lutter avec ces standards de qualité qu'on trouve sur les plateformes aujourd'hui et d'attirer ces publics qui sont peut-être plus familiers des plateformes que leurs aînés, pour leur montrer que nous aussi on peut proposer des choses. Je pense à une série comme 10% par exemple. Lorsque 10% est diffusé sur France 2 et dans les jours qui suivent sur France.tv, le public adepte de la SVOD sait revenir sur France Télévisions ou en linéaire ou en délinéaire. Donc à nous de rester toujours vigilants pour être créatifs et attirer ces talents avec les moyens qui seront les nôtres et qui sont contraints, comme vous l'avez dit.
Marie-France Chambaouillon, justement, sur cette relation avec les plateformes, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a toujours considéré ces dernières années que les que la télévision était un peu à la remorque des plateformes. Et là, il s'est passé quand même cet automne quelque chose d'assez intéressant, qui est que Netflix s'est mis à l'inverse à faire de la télévision, à faire du direct.
Exactement, mais ça uniquement en France, hein, uniquement pour les abonnés français de Netflix. Ce qui veut bien dire qu'effectivement que le modèle de la télévision linéaire en France a encore de beaux jours devant lui. Alors c'est vrai que ce service de la programmation de programmation qui est offert par Netflix paraît effectivement contre-intuitif. On se dit mais pourquoi Netflix propose cela ?
Voilà, pour expliquer juste, c'est en fait il y a un programme proposé en direct avec une grille, effectivement comme sur une chaîne de télévision.
Exactement, c'est une programmation. Alors que Netflix justement avait fait son succès et sa renommée sur le fait que il proposait des recommandations personnalisées justement à ses abonnés. Là, justement, Netflix va un petit peu squeezer en quelque sorte ses recommandations pour proposer directement une programmation à ses abonnés. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est-à-dire que là, Netflix quitte complètement une logique de la demande pour s'installer dans une logique de l'offre et également. C'est-à-dire que on voit comment ici Netflix veut devenir un média, veut devenir avoir une identité de chaîne de télévision, veut travailler justement son identité de la sorte, parce que ce qui se met en place ici, c'est finalement Netflix ne veut plus que ses abonnés regardent des contenus, que ça soit des séries ou des documentaires, mais Netflix veut que ses abonnés regardent Netflix. Et donc, on voit effectivement un changement de stratégie pour cette plateforme.
Alain Le Diberdeur, là-dessus ?
Je suis un peu plus mesuré. Je pense que la version linéaire de Netflix est uniquement en France. Et ça a peut-être un rapport avec l'idée qu'il y a des matchs de foot qui pourraient être disponibles dans quelques temps, sachant que les matchs de foot, eux, ils sont forcément en linéaire, enfin en tout cas en direct, et ça n'a pas de sens à la demande. Donc je pense qu'il y a une opération peut-être un billard à trois bandes, c'est peut-être une manière de mettre une petite pression sur Canal+, ou au contraire, c'est peut-être coordonner Canal+, je ne sais pas, mais à mon avis... cette expérience, encore une fois, qui est très limitée à une partie des abonnés pour voir, je ne pense pas que ça
va pas bouleverser
un changement de stratégie de Netflix.
Alors, pour conclure rapidement, est-ce que l'on a enterré finalement la télé trop vite, et où est-ce que l'on aurait tort de penser que 2020 peut changer quelque chose durablement ? Alain Le Diberdeur.
Non, alors je pense que effectivement en France on est passé d'un extrême à l'autre. Il y a quelques années, l'autorité de la concurrence, les politiques et une partie des commentateurs faisaient pas attention à la poussée de Netflix. On n'a pas parlé de la vraie menace pour la télévision. C'est pas Netflix, c'est YouTube qui est en train d'être la première chaîne dans toute l'Europe. C'est déjà le cas pour les moins de 34 ans et ça sera un jour la première chaîne probablement pour, disons, les moins de 50, les moins de 60. Donc, on a enterré la télévision trop vite. Et maintenant, on est passé donc du coup dans un extrême inverse et on oublie que la télévision, c'est le principal média, que c'est une énorme audience qui, même si elle continue à s'effriter, mettra 20 ans, 30 ans à devenir marginale. Et d'autre part, c'est le premier financier de la création, comme le disait tout à l'heure le directeur d'antenne de France Télévisions. Le documentaire s'est financé que par la télé. Les spectacles vivants, les captations de spectacles vivants aussi. Et le cinéma est quand même à un tiers financé par la télévision. Donc, faut pas les enterrer. La télévision, elle est très très loin d'être morte. Il y a des composantes qui ont des problèmes économiques, mais il y a des chaînes publiques qui ont un problème de revitalisation de leur mission, mais qui n'ont pas un problème d'audience et qui n'ont pas un problème de qualité. Et donc, ça va rester très très longtemps le principal média électronique, devant les réseaux sociaux, devant les plateformes. Mais je ferai attention à YouTube.
YouTube qu'on peut aussi sur beaucoup de télé maintenant regarder à la télévision. Donc évidemment tout ça se croise. Merci beaucoup à tous les trois, Florent Dumont, Alain Le Diberdeur, et merci à vous Marie-France Chambat-Houillon. C'était merci. Le temps du débat, Bruno Barada, Hugo Boursier, merci à vous, Rémi Baille, Louise André et Imane Gilles. À la technique ce soir, Clara Galivelle, à la réalisation, Alexandre Manzanares.